Livre 2, chapitre 24. Le rêve d'Edmé. Dans cette pauvre chambre, où la lampe, triste, éclairait naguère le travail de la malade, il y avait deux personnes maintenant. Madame Lebert, étendue sur son lit, et sa fille, Edmé, assise près du chevet. La lampe brûlait toujours, répandant sa lueur économe dans ce petit intérieur d'une propreté flamande, mais qui respirait je ne sais quelle mélancolie découragée. Il n'y avait rien là dans le mobilier ni dans les rares objets d'ornement qui indiquaient une fortune perdue. Tout était décent mais médiocre. Tout, excepté un très beau brassard d'acier ciselé, appartenant à l'art du XVe siècle, qui était posé sur la modeste commode et recouvert d'une baudruche très transparente. Sans cet objet qui contrastait avec tout ce qui l'entourait, l'opulence passée n'avait point laissé de débris. Il y avait des années qu'elle était morte, et comme il arrive après les catastrophes commerciales, quand le vaincu est homme d'honneur, on avait rompu complètement et tout d'un coup avec les zestes de la vie. On s'était fait pauvre, résolument et franchement. Edmé et sa mère étaient tout ce qui restait de cette maison d'Ancelle, l'orgueil et l'envie de la ville de Caen, la riche maison de banque, la maison de banque qui avait hôtel, château et carrosse. Vous avez vu dans quelques salles basses de ferme, dans quelques mansardes, le diplôme encadré comme une image sainte. C'est tout l'ornement de l'indigent réduit. Cela dit l'âme, gloire du maître, beaucoup de veille ou beaucoup de sang. Cela raconte parfois une noble action, parfois un trait d'héroïsme. Pour une fortune, les bonnes gens qui manquent de tout ne vendraient pas ce brevet-là. Le brassard ciselé, objet d'art délicat et précieux, n'était pas une relique d'orgueilleuse magnificence. C'était un témoignage, comme le brevet qui parle d'honneur. Monsieur Bancel, avant de quitter Caen pour toujours, avait épuisé ses dernières ressources pour se procurer ce brassard. Éloquence muette qui plaidait la cause de toute sa vie et constatait la force majeure, instrument de sa ruine. C'était là, sous l'enveloppe transparente, la foudre même qui l'avait terrassée. Monsieur Bancel, au moment de sa chute, avait quatre beaux enfants, une femme encore jeune et bien aimée, une vieille mère et une sœur dont il était la providence. Tout ce monde-là tint conseil, et il fut décidé qu'on travaillerait chaque heure de chaque jour pour payer cette lourde dette que le sort mettait à la charge de la famille. C'était d'honnêtes gens. Monsieur Bancel et sa famille vinrent à Paris. Il quitta son nom qui avait été une noblesse et prit celui de sa mère pour entamer une lutte vaillante mais ingrate. Madame Bancel, qui était enceinte à l'heure de la catastrophe, mit au monde une fille, notre ennemie, quelques jours après l'arrivée à Paris. Ce fut une fête mouillée de larmes, un sourire qui naissait dans le deuil. Et pourquoi cette morne histoire de la bataille impossible? Monsieur Lebert n'avait que l'habileté facile des heureux. Il n'était ni assez âpre, ni assez subtil pour faire de rien quelque chose. Il mourut bien vite à la peine. Lui partit, et il s'en alla le premier, fixant sur ceux qui restaient son regard désespéré. La mort demeura dans la maison. Sa sœur le suivit, une pauvre demoiselle qui ne pouvait se consoler, regrettant son luxe comme on pleure un amour, puis, chose lugubre, à des intervalles presque égaux, les quatre beaux enfants. Tout cela en 3 années. La veuve était de marbre, Edmé, son dernier bien, se coucha. L'intervalle y était, ce devait être son heure. La veuve s'étendit sur le tapis et ferma les yeux, elle ne voulait rien opposer à la condamnation de Dieu. Mais une douce petite voix l'appela et lui dit d'avoir courage. La leçon qui vient des enfants porte haut. La pauvre mère se releva pour s'agenouiller, elle était forte. Ce fut son premier et son dernier découragement. Edmé vécut. Il y eut à la maison de mélancolique bonheur. La veuve avait conservé intacte la pensée de son mari. Faire de sa fille une ouvrière était le plus sûr, et Madame Lebert avait assez de sagesse pour comprendre qu'en face d'une situation comme la sienne, il ne fallait rien risquer. Mais le travail d'une ouvrière ne sert qu'à vivre. Si Edmé devenait une grande artiste, la gloire fit gagner de l'argent. Madame Lebert eut ce rêve de la réhabilitation. Le nom de son mari, lavé de ses taches odieuses, exhumé de ce tombeau de honte, replacé enfin sur le piédestal où, pendant toute une vie de prospérité loyale, il avait mérité l'estime publique. Edmé devint une délicieuse fille et une artiste habile. Nous savons par quel hasard enfantin sa vie modeste se trouva mêlée à l'opulente existence de Schwartz. Sans ce hasard, elle n'eût jamais percé l'enveloppe d'obscurité sous laquelle végète à Paris tant de charmants talents. Ce fut donc un bonheur, mais ce fut un malheur aussi, parce qu'Edmé avait une âme ardente, sincère, dévouée, et qu'elle aima notre héros Michel. Certes, notre héros Michel le méritait bien. Il avait lui aussi le cœur dévoué, sincère, ardent, il valait beaucoup, mais rien ne valait Edmé. Michel était d'un riche sang, doux, franc, brave. Il avait la poésie des forts. Sa poésie avait déteint comme fou certaines couleurs dans une atmosphère viciée. Monsieur Schwartz, qui n'était pas un homme mauvais, avait un entourage auquel il serait injuste d'appliquer une épithète directement outrageante. Patron et clientèle pouvaient être rangés dans ce monde de milieu. Peuple affairé, effaré, militant à l'excès, à qui le besoin de jouer enlève toute personnalité et toute conscience. De jouer et non pas de travailler, quoique leur jeu soit tout un travail. La poésie qui passe au travers de cette foule y perd ses ailes. Edmé souffrait. Ce n'était peut-être pas tout à fait la faute de Michel. Il est tel secret qu'ils ne se peuvent confier, même à la femme aimée. Edmé souffrait, et Michel ne le voyait pas assez. Il allait, lui, courant les aventures. C'était un preux chevalier, il est vrai, avec le nom de sa dame aux lèvres et dans le cœur. Mais encore une fois, Edmé souffrait, tandis qu'au fond, ses chevaliers errants s'amusent. Edmé avait eu des débuts brillants comme professeur de piano. Elle s'était lancée très vite dans le monde Schwartz. Son talent, très réel, doublé par le charme que toute sa personne exhalait comme un parfum, lui marquait une large place qu'elle n'avait pas prise tout à fait parce que son gain l'a laissé pauvre. Et que, pour réussir, même en cette carrière si humble, il ne faut pas rester longtemps pauvre. Elle était pauvre à cause du rêve de sa mère qui allait se réalisant dans de très modestes proportions, il est vrai. Elle restait pauvre parce que le prix de ses leçons passait presque intégralement aux créanciers de son père. Deux fois par an, le petit commerce de Caen recevait de maigres acomptes et se disait « À ce train-là, ces gueux de Bancel ne nous auront pas payé dans 100 ans. » Heureusement que la bonne Madame Lebert ne travaillait pas jour et nuit, se privant de tout et privant aussi Edmé avec une rigueur spartiate pour obtenir la reconnaissance du petit commerce de Caen. Dans cette médiocrité, toujours voisine de l'indigence, il y avait du reste du bonheur. Il n'est pas au monde une récompense plus large que la satisfaction de la conscience. Nous savons comment le pauvre bonheur disparut, comment naquit l'inquiétude, comment vint la maladie du corps et de l'âme. Edmé adorait sa mère qui était sa confidente, cette mère sanctifiée par la souffrance. Mais toute passion solitaire est en danger d'aboutir à la monotonie. Madame Lebert rapportait tout à son idée fixe. À son insu, elle voyait dans la beauté d'Edmé un acompte futur distribué aux créanciers. Un mariage, le rêve de toutes les mères. La vieille dame avait supputé la compte que pouvait représenter la valeur de notre héros Michel. Elle songeait à cela en travaillant. Elle travaillait, travaillait toujours, disant, quand Edmé la grondait, disant, de sa voix faible et douce, « C'est un sou de plus pour nos créanciers. » Ce soir, Edmé l'avait endormie comme un enfant au récit arrangé de son entrevue avec Madame la baronne Schwartz. Le récit s'était arrêté à la rencontre de Monsieur Bruno. Madame Lebert ne connaissait pas Monsieur Bruno, qu'Edmé avait salué là-bas presque comme un ami. Pourquoi cette réticence? Edmé rêvait, la main dans les mains de la vieille dame, que le sommeil avait surprise ainsi. Elle ne regardait pas sa mère. Ses yeux secs et morts étaient fixés sur la fenêtre au travers de laquelle il cherchait la croisée de Michel. La croisée de Michel était noire. Edmé se disait « Je ne suis plus rien dans sa vie ». Elle avait vu la calèche de la baronne Schwartz dépassant la patache sur la route de Livry. Elle se disait encore « Ils sont ensemble ». Elle se retourna parce que la vieille dame avait fait un mouvement. Sur ses lèvres pâles qui remuaient lentement, Edmé devina ces mots, toujours les mêmes, exprimant la pensée qui la tenait dans le sommeil comme dans la veille, nos créanciers. Pour cela, elle eut mendié au coin de la rue. Edmé baissa les yeux et ses beaux sourcils se froncèrent. Elle retira bien doucement sa main de la main de sa mère, qui resta entrouverte et affaissée sur la couverture. Elle prit la broderie où chaque fleur, hélas, tremblait comme les doigts de la pauvre ouvrière, et la mit hors de portée. Car Madame Lebert se levait souvent la nuit pour reprendre son travail, puis, déposant sur le front de la dormeuse un baiser plus léger qu'un souffle, elle emporta la lampe dans la chambre voisine. C'était sa chambre à elle, meublée d'un petit lit bien blanc, dont les simples rideaux avaient des plis tout gracieux, d'une bibliothèque mignonne, où la musique des maîtres vivait près du génie des poètes, de deux bergères, dont une, poussée non loin du piano, semblait attendre un autre absent, et enfin d'un beau piano, austère de forme et portant le nom d'Erard. Ils étaient comme fiancés, Michel et notre Edmé. Michel venait là autrefois, même quand Madame Lebert dormait. Cette chambre avait écouté le duo splendide des jeunes et chaste amour. Le piano se taisait alors, et le rêve parlait, chantant le poème délicieux de l'avenir. Cette bergère vide marquait la place où Michel s'asseyait autrefois. Aimée posa la lampe sur le piano et vint à la fenêtre, croisant ses mains distraites sur l'espagnolette. Sa figure était tout contre les carreaux, où son haleine fit revivre les lettres de son nom, écrites par le doigt de Michel, un jour où lui aussi attendait peut-être. Les larmes lui vinrent aux yeux. Il faisait nuit toujours chez Michel. De la chambre où demeuraient Étienne et Maurice, des voix tombaient. Là se continuait l'éternelle dispute dramatique. Aimée va se mettre à genoux devant son lit. Elle pria, mais seulement des lèvres, car les événements de cette soirée entamaient sa foi. Tout ce bonheur qui entourait la baronne Schwartz donnait pour elle un démenti à la Providence. Ce fut en priant qu'elle se dit « Si je perdais ma mère, qui m'empêcherait de me tuer ?» Et cela mit un baume de glace sur sa peine. C'était une chère enfant pourtant, toute faite de vaillance et d'amour dévoué. Mais son entrevue avec la baronne Schwartz lui empoisonnait le cœur. Cette femme était heureuse. Cette femme avait les baisers de sa fille, un ange. Cette femme avait l'affection de son mari, un honnête homme, un homme fort qui la baignait de la tête aux pieds dans toutes les joies de l'opulence. Cette femme avait le respect du monde, elle qui volait à une enfant déshéritée son suprême prétexte d'espérer de vivre. Elle qui enfreignait pour cela les lois divines et humaines, elle, la comédienne hypocrite et adultère. Aimée se leva, laissant sa prière inachevée. Elle ne savait plus qu'elle avait voulu prier. Elle s'assit auprès du piano en face de la bergère vide et se mit à pleurer silencieusement. Il était là autrefois. Il lui prenait les deux mains et il bâtissait en l'air des projets qui toujours commençaient ainsi. « Quand tu seras ma femme !» Aimée se sentait affaiblie jusqu'à l'angoisse. Elle entendait ces mots sortir d'abandonnement confus. « Quand tu seras ma femme !» Et les larmes qui brûlaient ses pauvres yeux répondaient « Jamais je ne serai sa femme !» Puis l'idée d'être seule au monde et libre d'obéir aux conseils de son désespoir lui revenait, comme ces obsédants refrains qui bercent la fièvre. Elle étendait ses mains jointes vers la chambre de sa mère. Ce ne fut point un évanouissement, car elle rêva, mais cela ne ressembla point à un sommeil. Les belles boucles de ses cheveux touchèrent le clavier qui arrondit une plainte, et ses yeux se fermèrent. Elle était dans la chambre de sa mère. Elle éprouvait une horreur morne. Déjà les cierges allumés. Quoi, déjà ? Le crucifix était sur le drap et les deux mains de marbre se croisaient auprès de la broderie qui jamais ne devait s'achever. Fermée, oh fermée par pitié ses yeux qui avaient des regards si tendres. Déjà la veillée du prêtre et déjà le cercueil. Mais c'était un instant, Madame Le Bert dormait. Si je perdais ma mère, qui m'empêcherait de mourir ? Aimée avait dit cela, agenouillée et priant. Est-ce que le ciel peut exaucer les blasphèmes de la folie ? Quelques voisins, pas un ami. Le deuil montait vers le cimetière. Déjà. Déjà la fosse ouverte. Oh, Michel n'était pas là pour dire adieu à celle qu'il appelait ma mère. Michel, là-bas, cette calèche emportée par de rapides chevaux. Michel, et cette femme, celle qu'il aime maintenant, la baronne Schwartz. Il y a place pour deux ici, ma mère. Déjà, comme tout va vite, déjà du gazon et des fleurs sur cette tombe. Prie pour moi, ma mère, ma sainte mère. Le gazon a verdi, les fleurs se sont évanouies. Déjà, mon Dieu, déjà. La voilà seule aimée dans ce logis vide. Ils sont là, tous les deux, vis-à-vis. Michel et celle qu'il aime à présent. Le rideau cruel montre ces deux ombres enlacées. Tout est clos et le charbon s'allume, car la prière funeste est exaucée de point en point. Aimée n'a plus de mère, elle est libre de mourir. Michel, c'est la dernière pensée. Si pour le retenir ou pour le rappeler, il fallait perdre ce bien qui est plus cher que la vie, s'il fallait... Oh, ma mère prie pour moi. Jamais il ne m'a donné ce baiser que je devine et qui me tue. Qu'il soit béni, qu'elle soit maudite. Comme ce charbon s'embrase et que cette vapeur monte bien à mon cerveau. Est-ce donc si aisé de mourir et si doux? On lui dira demain au matin, quand il s'éveillera. Elle est morte. Dès que nous sommes morts, on nous pleure. Il viendra peut-être visiter là-bas celle qu'il a abandonnée si près de lui. Quand nous sommes morts, on nous aime. Qu'elle ne soit pas maudite, mon Dieu, pardonnez-lui. On devient meilleur pour mourir. Je vais à toi, ma mère. Michel, adieu, bien-aimé amour. Mes yeux se voilent, mais je t'aime. Je meurs et je t'aime. Je n'ai plus qu'un souffle, c'est pour t'aimer. Je t'aimerai au-delà de la vie. Qui est là ? Demanda la vieille dame éveillée dans la chambre voisine. C'est moi, répondit une voix mâle et douce. Ah, fit madame Lebert, c'est vous. Elle a bien pleuré, ne soyez pas si longtemps sans revenir. Elle ajouta mentalement et croyant parler. Approchez-moi mon ouvrage. Mais le sommeil pesait de nouveau sur elle. La tête charmante d'Edmé s'inclinait sur l'épaule de Michel que nous tenons enfin, le volage et le fugitif. Leurs lèvres se touchaient. Sa bouche pâle eut un vague sourire. Es-tu donc mort aussi? Murmura-t-elle en refermant les yeux. Je ne vois pas ma mère. Sommes-nous tous dans le ciel? Michel la regarda ébahi, puis il l'enleva dans ses bras, disant « On ne se marie pas dans le ciel, ma belle petite Edmé. Éveillez-vous, je suis vivant, je suis riche, je suis heureux. À quand notre noce ?»